Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour, frère Philippe.
Continuons à parler de Jésus, le Christ et le Fils de l'homme. Lors de notre dernier échange, dont nous nous rendons compte qu'il est assez riche, parler du Christ, que ce soit riche, n'est peut-être pas étonnant, mais tu évoquais cette expression « le Fils de l'homme » que Jésus a plus utilisée finalement que celle du Messie, dont tu le disais, le catéchisme le rappelle en 439, au paragraphe 439, ce n'est pas sans réserve que Jésus a utilisé le titre de Messie. Et le Fils de l'homme, effectivement, on le voit plus dans l'Évangile. Une question qui peut nous venir à l'esprit, c'est est-ce que Fils de l'homme serait le pendant de Fils de Dieu? Est-ce que ce serait une sorte de distinction ou pas? Peut-être que cela ne renvoie pas, comme beaucoup voudraient l'imaginer, ou un peu spontanément, cela pourrait venir, pour définir, pour marquer plus l'humanité de Jésus. Mais finalement, cette expression du Fils de l'homme, elle ne sort pas comme ça dans l'Évangile, elle ne vient pas de nulle part. On trouve son enracinement dans le livre de Daniel, le Fils de l'homme, qui effectivement, c'est le Messie, c'est ce personnage divin qui est attendu.
Oui, certainement, Jésus fait référence en utilisant « Fils de l'homme » à quelque chose qui n'est pas seulement un titre humain, « Fils d'homme ». Comme on peut l'entendre de quelqu'un qui est né d'un homme, c'est un fils d'homme, un petit homme, comme on pourrait dire. Dans Bar Enash, fils de l'homme, Daniel 7, 13, il y a un dévoilement qui se fait, une révélation du mystère divin. Sur le trône de Dieu, il y a un être transcendant de lumière qui apparaît, et c'est ce fils de l'homme qui ainsi manifeste les décrets divins. Et on voit bien que Jésus, alternativement, je le disais un peu rapidement à la fin de la dernière rencontre, que Jésus de temps en temps donnait le titre, s'autorisait du titre de Messie dans des entretiens particuliers, comme avec la Samaritaine, et la deuxième fois, c'est au moment de la résurrection de Lazare, à Marthe, il lui dit aussi qu'il est le Messie. Mais dans d'autres occasions, Jésus n'a pas hésité à s'appeler Fils de l'homme. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, est-il dit en Jean chapitre 8, verset 27, alors vous saurez que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais je dis ce que le Père m'a enseigné, et celui qui m'a envoyé est avec moi, et il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. C'est très très fort cette expression, en disant « je suis », il reprend le nom même que Dieu avait révélé à Moïse. Tu diras que je suis, t'a parlé, et que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc ce « je suis » renvoie à l'identité de Dieu. Donc on sent que ce Fils de l'homme que Jésus utilise, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est une allusion bien sûr à sa crucifixion, alors vous saurez que je suis. Vous voyez, il y a comme un équivalent entre la crucifixion et l'identité divine de Jésus. On comprend donc que ce Fils de l'homme est très forte, et d'ailleurs j'évoquais la rencontre avec l'aveugle né. En fait, Jésus ne lui dit pas qu'il est le Messie, mais il lui pose la question « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, que je crois en lui ?» Jésus lui dit « Tu le vois, c'est celui qui te parle, c'est lui. » Et l'aveugle-né lui dit « Je crois, Seigneur », et il se prosterna devant lui. En disant « Je crois, Seigneur », c'est-à-dire il dit quelque chose que on ne dit seulement qu'à Dieu, en l'appelant Seigneur. Et donc l'aveugle-né guéri reconnaît la divinité de Jésus. Un peu comme au jour de la résurrection, saint Thomas dira « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et cette coïncidence donc entre fils de l'homme et divinité est très forte, à tel point que on comprend que l'expression fils de Dieu pourrait, elle, n'avoir qu'une signification dans le fond de bienveillance par rapport à Adam, qui est appelé fils de Dieu et qui désignerait l'humanité de Jésus. D'ailleurs, dans Saint Luc, lorsqu'on donne la généalogie de Jésus, on remonte toutes les générations et puis finalement, on arrive à l'identité d'Adam, fils de Dieu. Donc le mot fils de Dieu pouvait paradoxalement ne pas avoir une signification que nous lui donnons facilement de nos jours, où c'est le monogène de Dieu le Père, le fils premier-né et l'unique fils de Dieu. Le mot fils de Dieu pouvait avoir seulement une signification, je dirais, de quelqu'un qui a été créé sous la bienveillance de Dieu. Et donc il y avait comme un chassé-croisé par rapport à ce que nous tenons depuis le IVe siècle, où au cours des conciles, on a voulu un peu simplifier les choses pour que, je dirais, le peuple qui croissait d'une manière exponentielle en nombre retienne plus facilement les choses dans une langue qui n'était pas nécessairement la langue hébraïque, qui ne connaissait pas les racines très profondes du livre de Daniel, etc. Et on a fait comme un chassé-croisé, c'est-à-dire que finalement, fils de l'homme a désigné l'humanité sainte de Jésus et fils de Dieu, sa divinité de verbe de toute éternité, le verbe qui a été engendré par Dieu le Père. Donc on comprend qu'il faut faire attention quand on lit l'Évangile, dans ce chassé-croisé plus tardif qui a eu lieu, qui a été une expression plus facile de catéchèse, et c'est vrai, nous qui faisons de la catéchèse, on aime bien simplifier pour permettre aux gens de mieux comprendre et d'arriver à la vérité. Ne croyons pas qu'il y ait eu une perversion dans ce chassé-croisé. Non, il y a eu une explication catéchétique pour que les gens comprennent mieux. Parce que quand on dit « fils de Dieu », on comprend plus facilement que ça remonte directement à Dieu, et « fils de l'homme », qu'il s'agit d'une descendance humaine. Mais du temps de Jésus, c'est clair qu'il y avait ce chassé-croisé. « Fils de l'homme » était beaucoup plus de considération divine, et « fils de Dieu » pouvait être une considération créée. Les anges étaient appelés « fils de Dieu », par exemple. C'était bien des créatures, c'était pas directement Dieu. Donc il y avait bien ce chassé-croisé dans la mentalité sémite de l'époque de Jésus, mais pour la croissance exponentielle des chrétiens dans le monde entier, où les expressions étaient un peu aussi marquées par le paganisme ambiant, il fallait être plus clair, et on aurait utilisé ces expressions telles qu'elles sont portées par l'Évangile, ça aurait été difficile pour l'ensemble des nouveaux, des prosélytes, qui auraient peut-être eu quelques difficultés.
C'est intéressant de voir que ce souci de simplification, comme tu le disais, de cette pédagogie qu'on a dans la catéchèse, qui est bien normale, évidemment, mais qui peut nous appauvrir les choses quand même.
Alors, il y a un petit appauvrissement. C'est sûr que quand on lit le livre de Daniel, après, tout à coup, on voit la profondeur des expressions de Jésus. Et dans les évangiles, on voit où Jésus veut mener les rencontres individuelles, comme l'aveugle-né, c'est quand même magnifique. Pendant le carême, il y a toujours un dimanche de l'aveugle-né, c'est un temps très fort où on demande la conversion. Alors l'aveugle-né, il passe des ténèbres à la lumière, et c'est une démarche finalement baptismale. Et dedans, c'est le Fils de l'homme rayonnant de Daniel, hein, qui est ainsi manifesté. Daniel 7, 13, c'est quand même un passage tout à fait extraordinaire à connaître, je pense, dans le cœur des chrétiens. Je crois qu'on aurait besoin de temps en temps de l'entendre. Tandis que je contemplais, des trônes furent placés, un ancien s'assit, son vêtement blanc comme la neige, les cheveux de sa tête purs comme la laine, son trône était flamme de feu. aux roues de feu ardent, un fleuve de feu coulait, issu de devant lui. Mille milliers le servaient, myriades de myriades, debout devant lui. Et c'est là où Daniel dit, et je regardais alors, à cause de ces grands bruits, il est comme impressionné. Je contemplais dans les visions de la nuit, voici venant sur les nuées du ciel, comme un fils d'homme, il s'avança jusqu'à l'ancien et fut conduit en sa présence. À lui fut conféré empire, honneur et royaume, et tous les peuples, nations et langues le servirent. Je me souviendrai toujours de ce commentaire que j'avais eu du grand rabbin Elio Toaf à Rome, qui était le grand rabbin à l'époque de Jean-Paul II, qui aimait ce passage parce que pour lui c'était la révélation sublime, la plus élevée qu'il y avait du char d'Israël, du Merkaba et de toute la Kabbale. Et donc il sentait là quelque chose de très divin et il avait une certaine admiration pour notre christianisme qui utilisait ces prophéties de Daniel vis-à-vis du Messie, vis-à-vis de Jésus. Donc on sentait en lui une fascination, même s'il n'arrivait pas à faire le pas jusqu'au christianisme, il y avait en lui une grande considération par rapport à ces textes de la Première Alliance.
En tout cas, ce que l'on peut retenir, c'est que sur la croix, ce n'est pas simplement l'humanité de Jésus qui se dévoile, c'est bien plus encore sa divinité. Enfin, le Christ, vrai Dieu, vrai homme, est manifesté sur la croix dans sa mort et sa passion, passion et sa mort.
Et c'est intéressant de voir que justement le centurion, qui est un païen, dit « celui-ci est vraiment le Fils de Dieu oui. ». Donc c'est intéressant que cette transition que je notais est déjà dans l'Évangile, est déjà présente, parce que dans le fond, c'est ça qu'attendent les païens. Les païens attendent qu'on leur dise que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Et on a répondu avec leur langage à eux, mais qui est déjà dans l'Écriture, donc qui correspond à une vérité scripturaire. Donc quand les conciles ont dit que Jésus était à la fois Fils de l'homme et Fils de Dieu, ils n'ont pas trahit vraiment l'Écriture, puisque c'est vraiment déjà écrit dans ces textes. Le Fils unique de Dieu, Jean 3, 16, ainsi que le redit le catéchisme numéro 444, manifeste un titre de préexistence éternelle, hein, le Fils bien-aimé du Père. Et le passage du centurion, vraiment cet homme était fils de Dieu, Marc 15, 39, le centurion donc au pied de la croix qui fait cette déclaration de foi. Dans le mystère pascal, le croyant peut donner sa portée ultime au titre de fils de Dieu. Donc on comprend que ce titre, qui aurait pu être un peu résorbé dans des réalités créées, comme Adam ou comme les anges, est pris toute son extension à mesure que la révélation se faisait plus forte et que la confession chrétienne s'affirmait plus déterminée.